À la une, on parlera de l'OPT qui creuse son déficit. On reviendra sur les débats qui ont animé l'Assemblée sur ce sujet. On vous donnera des nouvelles aussi des lycéens qui passent le bac. C'était la philo ce matin. Et enfin, le salon Made in Fénois, ça commence ce jeudi. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
L'OPT creuse son déficit.
Et oui, jeudi dernier à l'Assemblée, les élus ont approuvé les comptes 2023 de l'OPT, mais il y a eu du débat, Caroline Perdri.
Malgré les subventions du pays, les comptes consolidés du groupe OPT en 2023 finissent dans le rouge à hauteur de 2,3 milliards de francs. Et ce ne sera pas mieux en 2024. La réforme qui a divisé l'OPT en filiales, Onati d'une part qui est encore rentable, mais dont le résultat est érodé par la concurrence, et Ferrerata d'autre part, qui regroupe les activités postales structurellement déficitaires, ne produit pas les effets escomptés. La péréquation interne prévue ne parvient pas à rééquilibrer les comptes.
Plus de deux ans après son arrivée aux affaires, le gouvernement n'a guère avancé sur le sujet. D'abord confié à Vanina Krolla, puis à Warren Dexter. On attend pour cette année un audit financier et un audit de gouvernance, mais les élus s'interrogent sur le manque de clarté de la stratégie. Et on vous le rappelle, cela fait un an que la nouvelle PDG Ina Delva a été nommée. Le parti Bleu Ciel demande la signature d'un contrat d'objectifs et de performance entre l'OPT et le pays et l'établissement d'un budget pluriannuel avec un contrôle politique clair. Warren Dexter, qui a hérité de la tutelle de cette patate chaude en février dernier, a résumé les causes du mal.
Pendant longtemps, l'Office des Postes a investi à tour de bras, sans considération de rentabilité, en particulier dans les îles, parce qu'à l'époque, elle avait les moyens. Vers 2012-2013, avec l'arrivée de Vodafone, que les warnings ont commencé à s'allumer, parce que progressivement, ils ont commencé à prendre des parts de marché. La diminution également de l'activité postale, due à l'explosion du numérique. Si vous ajoutez à cela les dividendes que le pays a prélevés sur l'OPT de 2006 à 2016, je rappelle qu'il s'agit quand même de 14 milliards en cumulé, eh bien, vous avez aujourd'hui l'explication de la situation désastreuse dans laquelle on se trouve.
Comme l'a souligné Pascal Haïti, en attendant le résultat de ces multiples études et audits, aucune piste sérieuse ne semble se dégager. Faut-il mutualiser les moyens et se servir des Fariora pour assurer une présence dans les îles? Faut-il céder les biens immobiliers, s'inspirer de la Poste en France qui renoue avec les bénéfices en diversifiant ses activités? Faut-il privatiser certaines activités, s'associer à une banque locale pour sauver ou pas Marara Paiement? Faut-il remotiver le personnel ou se résoudre à un plan social? Warren Dexter semble s'acheminer vers une délégation de services publics.
On n'a pas de recette miracle. Le caillou dans la chaussure, c'est le service dans les îles. C'est structurellement déficitaire. On peut faire tout ce qu'on veut, jamais être même à l'équilibre. Tous les ans, il faut entretenir tous ces actifs avec des rentrées qui sont bien inférieures à ce que ça coûte. Eh bien, l'OPT est condamné à supporter ça comme surcoût chaque année. Il faut qu'on puisse nous dire que toutes les activités qui sont déployées dans les autres archipels, c'est du service public, parce que jamais ça pourrait être rentable. L'idée, c'est vraiment d'arriver à un schéma de DSP.
Et il faut rappeler que sur l'année 2025, le pays va apporter 1,40 milliard de francs de subventions à l'OPT.
On change de sujet pour aller à la sortie des lycées. Les épreuves du bac ont commencé avec la philosophie.
Et voici les sujets. La fréquentation des œuvres d'art est-elle une perte de temps? Ou encore, peut-on combattre une croyance par le raisonnement? Ou encore, une explication de texte de Platon sur l'amour de soi? Ils avaient le choix entre ces trois sujets. Et on était à la sortie. Les lycéens interrogés étaient plutôt contents. On les écoute.
Ça va, je me sentais bien, c'était un sujet qui était assez accessible, sur lequel on avait travaillé, donc ça va, j'étais à l'aise, j'étais plutôt à l'aise, ouais.
Moi personnellement, j'ai révisé que la nature et la justice, et c'est tombé sur la justice, du coup c'était bénéfique pour moi et je le sentais bien dès le début, j'avais les citations, les connaissances, du coup j'ai tout mis en place et ça s'est bien passé pour moi, je pense. Hein.
Moi j'ai eu de la chance parce que j'avais révisé que des notions comme lui, l'art et le travail. Et du coup, c'est tombé sur l'art. Et du coup, j'ai direct choisi l'art parce que c'était les deux seules notions que j'avais révisées. Et au début, je pensais que j'allais avoir plus de connaissances que ça. Mais au fil que j'écrivais, il n'y en avait plus trop qui sortaient. Mais j'ai quand même réussi à tenir beaucoup. Du coup, j'ai fait 6 pages. Du coup, c'était bien.
Et voilà, et on leur souhaite bon courage pour la suite des épreuves. Résultat, le 4 juillet.
Vous écoutez le journal de la rédaction. Dans l'actualité aussi, cette réduction drastique du nombre d'inspecteurs pour les permis de conduire.
Et oui, de 10, ils seront désormais plus que 5. Départ à la retraite, mutation, congé sans solde et aucune relève n'a été anticipée. Aucun concours pour des inspecteurs des permis de conduire n'est prévu avant 1 à 2 ans. Les embauches sont gelées et les auto-écoles vont devoir s'adapter. Veihere Salvanayagam est monitrice d'auto-école et coach de la route, bien connue sur les réseaux sociaux. Elle y voit une opportunité pédagogique. Elle est l'occasion de voir l'auto-école comme une école et plus comme un commerce.
Bien sûr, la population, les élèves, les parents, ils vont pas être contents, c'est certain. Et ça, on le saura dans quelques mois. Mais nous, dans les auto-écoles, on est contents parce que maintenant, on évitera d'envoyer nos élèves à l'échec directement. Donc là, maintenant, on va être obligé parce qu'on a une fiche aussi, on a un document. Sur ce document, on devra à chaque fois noter les commentaires qui dit que l'élève peut aller passer l'examen avec le nombre d'heures qui est initialement prévu, le nombre d'heures qu'il a effectué, et si jamais il doit repasser l'examen, combien d'heures il devra faire avant de repasser l'examen.
Vehere, qui est très active sur les réseaux sociaux où elle partage conseils, témoignages et analyses pédagogiques, elle défend depuis toujours une vision engagée de la formation au permis. Pour elle, il ne s'agit pas d'un simple bout de papier, mais bien d'une autorisation d'être sur la route avec les autres. Et désormais, les places à l'examen pratique devront se mériter. Et Vehere en est convaincue, moins de volume mais plus de qualité, c'est en tout cas ce qu'elle espère.
On reste dans les transports, mais cette fois aérien.
Oui, car c'est à la douane que vont avoir lieu des changements pour les vols domestiques. C'est la fin de la tolérance. Aéroport de Tahiti a récemment annoncé aux visiteurs qu'à partir de ce mercredi, c'est-à-dire après-demain, les règles de sûreté sur les vols inter-îles s'alignent sur celles des vols internationaux. Les passagers inter-îles devront désormais se soumettre aux mêmes restrictions.
Et on vous parlait ce matin de ce drame à la Fatawa.
Oui, un homme de 37 ans a fait une chute de plusieurs mètres alors qu'il faisait du canyoning dimanche. On vous en a parlé ce matin, il est décédé à son admission à l'hôpital. On a appris qu'il s'agissait de Toanui Nena, un guide de randonnée apprécié et bien connu aux Fénoa, et les messages de condoléances se sont multipliés sur les réseaux. La famille et les amis se souviennent d'un jeune homme amoureux de la nature avec un grand cœur. Beaucoup parlent de sa gentillesse, son sourire, son humilité, et tous sont sous le choc de sa disparition. Toanui Nena laisse un grand vide derrière lui.
Et l'hélicoptère est également intervenu sur les compétition du Xterra ce week-end.
Oui, c'est un coureur sur le 12 km qui a fait une chute et a dû être évasané sur l'hôpital du Taoné. Son état était jugé critique, mais ce matin, les nouvelles sont bonnes. Les organisateurs très inquiets depuis hier se sont dit soulagés.
La Tahiti Fashion Week prépare sa 11e édition.
Et le casting pour trouver des mannequins est lancé, un concours qui permet à des demoiselles d'être repérées par une agence italienne partenaire du concours. Et attention, ce n'est pas un jeu, prévient Alberto Vivian qui organise l'événement. C'est un vrai casting. Le processus est strict pour les filles. Première sélection avec l'équipe locale. Les photos sont ensuite envoyées à une agence de mannequins en Italie et c'est elle qui valide les profils. Et si la taille et la silhouette restent des critères importants, la personnalité est aussi essentielle.
Tu peux être la plus belle du monde, mais si tu es effacée, ça ne marche pas. Tu arrives dans le client et tu parles. Tu ne poses pas seulement ton bouc et tu restes là sans rien dire. Il faut commencer à parler et nous avons le mot magique, c'est Tahiti. Dès que tu parles de Tahiti, c'est un plus pour le client. Donc, qu'est-ce qu'on demande ? Voilà, grande, fine et avec une belle personnalité.
Voilà, les filles qui gagneront le concours de la Tahiti Fashion Week décrocheront donc un billet pour des tests à l'agence Brave Model Management à Milan en Italie, un prix qui peut mener loin. Alberto cite en exemple la carrière internationale de Tia Van. La jeune femme, grande vainqueur de l'édition 2016, mène depuis une carrière à l'international.
Et c'est aussi la 24e édition du salon Made in Fénois.
Après une annulation l'année dernière, le salon Made in Fénois sera bien organisé cette année. La CCISM a essayé de le ramener à la Maison de la Culture, mais ça n'a malheureusement pas marché. Les stands seront donc bien installés sur le parc expo de Mamao et ça commence jeudi. Une 60aine d'exposants sont attendus dans différents secteurs, agroalimentaire, bijouterie, textile, cosmétique, artisanat et services divers. Et attention, que du local, avec des règles précises suivant les domaines d'activité, comme l'explique Gaëlle Lamis, élue de la CCISM qui participe à l'organisation du salon.
Cette année, il y a vraiment une commission d'éligibilité qui a passé tous les artisans au crible. Les artisans ont dû déposer des dossiers, prouver que la fabrication était locale. Il y a des artisans qui malheureusement ont été éliminés parce que la transformation n'était pas suffisante par rapport aux règles qui étaient fixées pour le salon Made in Fénois. Et donc là, on essaye d'assurer que vraiment la transformation soit bien faite localement et que ce soit de la valeur ajoutée locale. Si on prend par exemple le textile, on sait tous que le textile n'est pas fabriqué sur place. Donc là, les règles, c'est que le textile peut être acheté, mais toute la transformation du textile, couture, les agréments, le travail, la découpe et compagnie, doit avoir été faite sur place.
Des stands d'animation, mais aussi des ateliers de démonstration et de fabrication de produits sont au programme. Il y aura aussi le traditionnel concours avec les trois trophées or, argent et bronze et nouveautés de l'année. Ce n'est plus le coup de cœur du jury, mais le coup de cœur du public. Des hôtesses devront recueillir les votes sur des tablettes numériques. Voilà, c'est la fin de ce salon. Pas du salon, non, du journal. Retour de l'information à 16h pour le flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, c'est la météo sur Radio.